Nous sommes en direct par téléphone avec Bertrand Meeust. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Nous parlons donc de votre premier livre, Science-fiction et soucoupe volante, qui était paru au Mercure de France en 1978. Livre essentiel qui a infusé de manière souterraine une bonne partie de la théorie fictionnelle, à la fois l'ufologie et aussi surtout, bien entendu, la science-fiction, qui a été très très fécond en matière de sociologie et d'anthropologie. Bref, un livre essentiel, et c'était l'occasion ce soir de pouvoir en parler. Je signale cet entretien que vous avez eu dans la revue Socio en 2019 avec Pierre Lagrange, et dans cet entretien vous avez parlé de l'ensemble de vos recherches. Nous allons principalement nous parler de science-fiction et soucoupe volante, et j'aimerais que vous nous expliquiez de manière assez rapide pour commencer, afin que nous comprenions bien, la thèse de votre livre.
Ben, il faut d'abord comprendre, ça sera peut-être un peu plus long, mais dans quelles conditions je l'ai écrit. Hein. J'ai commencé à écrire ce livre en 1975. Donc j'étais un jeune étudiant en philo, j'étais en licence à l'époque. J'étais donc passionné de science-fiction, avant tout. Et j'avais l'intention de faire une thèse sur Stanislas Lem, et avec Philippe Dick, un des grands génies de la science-fiction. J'étais absolument fasciné par Stanislas Lem, je suis même allé le voir à Cracovie. Mais je me suis rendu compte que une partie de son œuvre n'étant pas traduite, c'était hors de portée pour moi de faire une thèse sur lui. Je parle d'une thèse à l'époque de littérature. Donc j'ai abandonné le projet, et il m'est venu à l'idée de le transformer en une autre idée qui commençait à germer dans mon esprit. C'était un rapport entre les récits de science-fiction et les récits d'OVNI. Alors, il faut que je vous précise que j'ai commencé à faire des enquêtes pour le GEPA à partir de 72, donc j'avais une certaine pratique de terrain. Bon, vous savez, faire des enquêtes, c'est extrêmement difficile, et je ne suis certainement pas très doué pour ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir le phénomène de près, si vous voulez. Vous voyez, m'imbiber en quelque sorte. Donc j'ai commencé, j'ai très vite eu une intuition qui a germé dans mon esprit, c'était le rapport avec les récits de science-fiction antérieurs à 1947. Donc en fait, comment est-ce que l'idée est venue? Eh bien, c'est qu'un j'étais en train de fouiller dans le grenier de mes grands-parents pour chercher des vieux livres, et je suis tombé sur un bouquin de Jean de La Hire. Donc, ce que j'ai vu sur la couverture, c'était un dessin tout à fait typique d'un enlèvement soucoupique, une sphère qui pompe un personnage dans une sorte de rayon de lumière. Je regarde le titre, la roue fulgurante, me dit « Ah !» Et je regarde la date de publication, 1912. Alors, je me dis « Mais là, il y a un problème. Les premiers enlèvements tels qu'on les connaît ont été recensés en 1957, avec Antonio Villas-Boas et la suite. Et donc, comment est-il possible qu'il y ait à ce point toute l'imagerie? Si vous voulez, c'est comme si on aurait pu prendre ça comme un dessin de portrait robot d'un cas d'enlèvement dans la lumière, dans la nuit, vous voyez, si vous voulez, ou la FSR. Et donc, tout est parti de cette intuition, en fait.
Alors, à partir de cette intuition, vous êtes à la fois plongé dans les cas, donc dans la littérature ufologique, celle qui recense notamment les recensions de personnes qui disent avoir vu des soucoupes volantes, et ceux qui disent aussi avoir fait l'expérience de rencontre avec les occupants des soucoupes volantes, et à la fois, vous vous êtes donc intéressé à l'histoire de la science-fiction, notamment à l'histoire de la science-fiction française et à l'histoire de la science-fiction anglaise, donc c'est-à-dire les deux versants, Jules Verne et H.G. Wells, qui sont deux manières de faire de la science-fiction, et qui s'appelait à l'époque le merveilleux fantastique. Vous êtes plongé dans cette littérature-là, déjà, de science-fiction et de merveilleux fantastique, notamment avec l'aide de Pierre Versin. C'est oui. Un personnage absolument central dans l'histoire de la science-fiction.
Alors, en fait, la littérature sur les ovnis, je la connaissais déjà et je la connaissais par cœur. Donc, c'est ça qui me permettait de faire le rapprochement. Quant à la science-fiction, j'en avais lu beaucoup dans ma jeunesse, dans mon adolescence, mon enfance. Même, j'avais lu une partie de Jules Verne avant d'entrer en sixième, si vous les voyez. C'était bon, c'est une autre époque. Voilà, donc j'avais ce bagage en tête et puis les intuitions germaient. J'ai été frappé de la communauté de registres, si vous voulez. Et donc, il se trouve que quelques années auparavant, je m'étais lié d'amitié avec deux amis qui s'intéressaient également à l'ASF, Daniel Martinigol et puis Elisabeth von Harbour, qui est devenue une des grandes écrivaines de l'ASF francophone, qui vit actuellement au Québec. Et on était allé voir Pierre Versin, avec qui je m'étais lié d'amitié, un personnage extraordinaire, qui vivait reclus dans une ferme complètement pleine de livres. C'était un ancien rescapé d'Auschwitz aussi, qui, en fait, a compris quand il s'est retrouvé à Auschwitz que c'était que l'utopie. Il détestait les utopistes, en fait, il faut le savoir. Donc, je suis allé voir Versin, qui faisait un peu il professait une sorte de rationalisme un peu dédaigneux à l'égard des soucoupes volantes. Il faut savoir qu'à l'époque, le milieu des soucoupes était très, très opposé à toutes ces spéculations sur les ovnis. Ça leur paraissait très bas de gamme, très vulgaire, etc. Donc là, j'ai innové complètement en leur faisant prendre ça au sérieux. Donc je suis allé voir Versin et je faisais des prédictions. Si ma théorie était exacte, il fallait qu'on devrait trouver tel et tel type de récit. Par exemple, il me faudrait des enlèvements par lévitation dans un rayon lumineux. Il me faudrait un objet... un mystérieux qui cale le moteur d'une voiture, etc., etc. Vous voyez toute la gamme des récits. Et donc, ce que j'ai fait, Versin m'a amené des livres qu'il entassait sur la table, d'un air un peu sarcastique. Et voilà, j'avais alors j'avais commencé à en lire par ailleurs, hein, mais si vous voulez, il avait un fond qui était un des meilleurs au monde à l'époque.
Et alors, petit à petit, vous êtes aperçu d'une concomitance,
en fait.
Voilà, vous vous êtes aperçu d'une concomitance.
J'étais pris dans des conditions matérielles, j'avais perdu le job que j'avais à l'époque pour payer mes études de philo, donc je vivais dans une soupente d'étudiants, enfin, etc. Et je voulais faire quelque chose qui débouche vite. Et donc, en fait, j'ai construit la thèse. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que je vous dise un peu la thèse de départ. C'est que la science-fiction, si vous voulez, c'est le produit d'une époque, d'une culture, voilà. Et il se trouve que, précisément, à ce moment-là, apparaît un phénomène, encore inconnu dans l'histoire humaine jusqu'alors, enfin c'est ce qu'on pensait à l'époque, qui se manifeste avec exactement certains types de comportements, certaines formes, certaines péripéties, qui avaient été décrites par les écrivains de science-fiction. Alors je me suis dit, mais c'est impossible, une coïncidence comme ça dans l'immensité du temps et de l'espace, c'est... Vous voyez, j'ai commencé par sentir une énigme. Alors en fait, si vous voulez, pour résumer, les formes des objets qui viennent nous visiter, les péripéties auxquelles donne lieu leur interaction avec les humains, par exemple, ils vont s'approcher, ils vont se montrer, ils vont enlever, vous voyez. Les effets spéciaux qu'ils produisent quand les vols en zigzag, les disparitions instantanées, la fantasmagorie de lumière, les très importants faisceaux lumineux qui toujours les accompagnent, tout ça, c'était dans la science-fiction. Particulièrement les faisceaux de lumière. Il suffit de regarder l'illustration pour comprendre tout de suite. Et je me suis particulièrement... il y a eu deux aspects à ma thèse. D'un côté, la collection de récits que j'ai soigneusement ajusté pour ma démonstration, et de l'autre, l'aspect visuel. Donc, je suis allé avec un copain photographe chez Versin, et on a fait une belle collection de photos, de couvertures, d'illustrations des livres de science-fiction. Alors, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que la coïncidence allait beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. C'est ceux qui ont voulu me critiquer en disant que c'est moi qui l'avais fabriqué ont fini par se casser les dents sur cette évidence. La coïncidence allait beaucoup plus loin, Mais si vous voulez, je ne pouvais pas le savoir parce que Verfin, qui avait une des meilleures collections, avait peu de pulps américains. Il en avait, mais il en avait une petite quantité de très mauvaise qualité. C'est un très mauvais papier. Et ce qu'on appelait les pulps, hein, c'était ces revues de science-fiction qui se sont développées dans les années... à partir des années 20, de 20 à 45, ouais, si vous voulez. C'est un immense domaine de l'imaginaire américain, ça. Et c'est là qu'on trouve visuellement les ovnis. Donc la description verbale, on peut toujours la contester, parce qu'on peut y mettre ce qu'on veut avec notre imagination, on peut la meubler comme on veut, mais les images parlent toutes seules. Voilà, donc c'est ce livre que j'ai fait paraître. Alors au début, j'ai commencé à prospecter des éditeurs, mais comme c'était mon premier livre, que je choisissais délibérément les éditeurs les plus mauvais, en pensant qu'ils avaient plus de chances de m'accepter, en fait. Ce que je savais, pour percer dans le milieu de l'édition, quand on est un jeune inconnu issu du milieu rural, c'est presque impossible. Et donc finalement, j'ai subi de nombreux échecs, au moins 7 ou 8, et finalement j'ai envoyé mon livre à Aimé Michel, que j'admirais, que j'avais déjà rencontré une fois ou deux, et il m'a écrit en me disant « je vais vous faire publier ». Trois semaines après, j'avais rendez-vous chez Simone voilà. Gallimard, si vous voulez, c'est comme ça que ça marche l'édition. Hein.
Et c'est lui qui a écrit la préface, et Aimé Michel est aussi quelqu'un de très très souterrain, mais qui a pu aussi avoir une grande grande influence. Moi, quelque chose qui me plaît toujours beaucoup chez lui, c'est son texte qui s'appelle « Le principe de banalité », qui date de 1974, qui est un texte vraiment d'une très très grande logique, d'une très très grande raison justement sur ce phénomène. Parce que votre thèse est très originale. Elle était très originale, mais on considère encore qu'elle est très originale parce que le plus souvent, écrivez-vous, les ufologues se sont plu à croire que les apparitions d'humanoïdes, par leur improbabilité même, n'ont pas été imaginées par les auteurs de science-fiction.
Voilà. C'est en fait, il faut que je précise ce point. À l'époque où j'ai commencé à écrire le livre, c'est-à-dire au printemps 75 exactement, il y avait une sorte d'oxa dans le milieu de la soucoupe, particulièrement en France, mais aussi, à mon avis, en Angleterre. C'est que les phénomènes étaient tellement étranges que ça transcendait l'imaginaire humain, si vous voulez. Donc, c'était l'argument central. Ce sont des choses qui n'ont jamais été... Ça débarque d'un vide sidéral et mythique, si vous voulez. Et donc, ça paraissait évidemment faux. Hein. Au contraire, c'était extrêmement banal sur le plan mythologique. C'est ce qu'on appelait la haute étrangeté à l'époque. C'est à l'époque où, vous savez, le film de Spielberg est paru en 78, à peu près en même temps que mon livre, vous voyez. Donc, ce qu'on pensait à l'époque, c'était que vraiment, ça transcendait l'imaginaire humain. Or, la science-fiction avait complètement anticipé tout ça et façonné l'imaginaire en question. Et pourquoi est-ce que... Donc, ça m'a obligé à retourner tous les concepts, c'est-à-dire ce qu'on appelait la haute étrangeté, c'est en fait notre étrangeté, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en résonance avec notre culture. Vous voyez ? C'est pas une intrusion radicalement impensable, c'est au contraire ce qu'a imaginé, comment l'imaginaire humain a fait représenter l'éventuelle intrusion d'êtres extraterrestres dans notre espace aérien et sur la Terre.
Mais alors, il y a un problème qui s'est posé à vous, et c'est ça qui est difficilement envisageable aussi et qui vous pose un problème, c'est que les personnes qui disent avoir vu des soucoupes volantes, voire même certains cas où des personnes disent avoir été enlevées par des extraterrestres, donc par les occupants des soucoupes volantes, ces personnes-là n'ont pas du tout lu cette littérature populaire d'avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que, et notamment le cas Villas-Boas, en fait, lui, c'était un paysan brésilien qui était analphabète. Donc, il n'avait pas du tout de contact avec cette littérature-là. On peut prendre Betty Hill aussi comme cas emblématique. En 1961, elle non plus n'avait pas lu du tout les peuples. C'est-à-dire que les personnes qui rencontrent ce phénomène, ou le phénomène en tout cas agit par eux, eh bien, ils n'ont pas eu du tout cette lecture-là de ces livres-là. Ils n'ont pas vu non plus ces images. C'est donc un imaginaire qu'aurait infusé. Et c'est ça aussi qui est un incompréhensible du résultat de vos travaux qui nous pose à tous problème.
Alors, en fait, il faut quand même nuancer ce verdict. Les cas, si vous voulez, un des arguments qu'on employait souvent, c'est que on voyait, il y a des cas qui ont été vus sur toute la Terre. Oui. Mais en fait, les cas qui viennent par exemple d'Afrique, pour prendre un exemple que je connais, eh bien, il y avait toujours un intermédiaire occidental, où c'était un couple mixte, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, c'est bien quelque chose qui appartient à une culture, mais à l'intérieur de cette culture, ce que ça montre, ce que les chemins que prend cette information imaginaire pour ressurgir, se cristalliser par moments, etc., sont incompréhensibles. On ne les comprend pas encore. Voilà. Donc c'était déjà une des premières choses que j'ai découvertes assez involontairement, si vous voulez. Hein. C'est ça, c'est cette... ce décalage par rapport à ce qu'on croit savoir du fonctionnement de l'imaginaire collectif. À supposer même qu'il n'y ait pas d'OVNI, que tout soit imaginaire, il y aurait déjà ce phénomène qui serait très étrange. Mais bon, je vous dis, il faut quand même nuancer ce que vous venez de dire. Par exemple, dans le cas de Antonio Villas-Boas, je crois que c'était pas vrai qu'il était analphabète. D'après, j'ai entendu des études plus récentes. Alors peut-être que ce sont des sceptiques, si vous voulez, qui ont voulu... Il y a toujours un effort chez les sceptiques de minimiser l'énigme, vous voyez. Bon, en tout cas, voilà comment le problème se présentait. Alors, à partir de là, quand j'ai eu... si vous voulez, j'ai procédé d'une manière tout à fait méthodique, en analysant méthodiquement les divers aspects de la manifestation des ovnis, et en mettant en rapport les cas correspondants, les illustrations correspondantes. C'était le premier travail à faire. Mais ensuite, il fallait aller plus loin. Alors j'ai fait la liste de toutes les hypothèses qu'on pouvait m'objecter.
C'est toute la deuxième partie de l'ouvrage.
Dans l'ordre de complexité croissante. Et j'ai tout examiné. Que, par exemple, les écrivains de science-fiction avaient été capables d'anticiper la venue des extraterrestres. Ça, c'est une hypothèse naïve, parce qu'en réalité, c'est impossible, si vous voulez. On ne peut pas imaginer, si vraiment il s'agit d'êtres qui ont franchi transcendé le temps et l'espace, la probabilité que les écrivains pour enfants ou adolescents de 1930 aient imaginé tout ça dans le détail est hautement improbable.
Oui, ça j'aimerais qu'on s'y attarde justement, parce que c'est quand même un argument important où vous montrez que la science-fiction est incapable de faire des prédictions.
Non, elle n'en était pas capable. Ensuite, il y a un deuxième niveau de l'hypothèse, c'est que la science-fiction aurait, en quelque sorte... Alors, si vous voulez, ça, c'est la contrepartie sceptique. C'est-à-dire, la science-fiction aurait formaté les esprits et nous imaginerions les ovnis, ou ce qui, qui a lieu de support, à travers les images de la science-fiction. Si vous voulez, en fait, j'ai examiné toutes les hypothèses possibles. Je ne vais pas vous les passer en revue parce que ça serait trop long. Il suffit les gens n'auront qu'à lire mon livre et retrouveront tout ça. Toutes les hypothèses possibles. Je ne pense pas en avoir oublié une. Même l'hypothèse parapsychologique. Je commençais à l'époque, si vous voulez, à m'intéresser à la parapsychologie, à laquelle j'avais commencé à m'intéresser à travers le livre d'Aimé Michel. Sur le mysticisme. c'est-à-dire mais, qu'on appelle un livre qui est publié aujourd'hui sous le titre de Métanoïa, qui était paru en si mes souvenirs sont exacts, en 1974. Et donc, j'avais lu ce livre avec avidité, et j'avais remarqué, si vous voulez, bon, l'imagerie est complètement différente, mais les processus impliqués sont les mêmes. Les saints sont capables de léviter, les saints sont capables de transcender les lois physiques, parfois, bon, pour entrer dans les détails. Et donc, où est-ce que j'en étais ?
Le lien avec le parapsychisme et vos études que vous avez menées avec.
Je me perds le fil parce que c'est pas. J'ai du mal à. Il faudrait qu'on ait une discussion plus, resserrée parce que je perds le fil autrement. Des fois, alors, je sais plus où j'en suis.
Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse on passe un petit morceau de musique avant d'aborder le cas de Paul Venn avec les Grecs ont-ils cru à leur mythe et la réponse que vous lui avez faite et la manière dont il a considéré votre réponse véritablement et à quel point, au contraire, ça a modifié chez lui. Sa manière de voir les Grecs et leurs mythes. Bertrand Mills, je vous propose que nous parlions maintenant, que nous en venions à votre texte paru dans Communication en 1990, « Les Occidentaux du XXe siècle ont-ils cru à leurs mythes ?» C'était votre réponse très argumentée au livre très célèbre de l'historien Paul Venn, « Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?» Et votre texte a été pris très très au sérieux par Paul Venn. Je vais d'abord en lire un extrait. Je vous cite. La réaction commune devant de telles histoires, nous parlons donc des soucoupes volantes, est d'incriminer l'affabulation ou le délire. Or, les recherches menées depuis une vingtaine d'années ont peu à peu éliminé ces deux hypothèses. La plupart des personnes enlevées seraient de bonne foi et ne relèveraient pas du psychiatre, du moins au sens trivial du terme. De sorte que c'est du côté des États non ordinaire de conscience vers les expériences visionnaires des chamans qu'il faudrait chercher la clé de ces étranges expériences. Voici un petit paragraphe qui était votre réponse à Paul Venn. Pouvez-vous nous expliquer ?
Alors, il faut d'abord que je vous explique le contexte de tout ça. Autrement, là, on fait une sorte de saut brutal de travaux des textes d'anthropologie à mon premier livre sur les soucoupes et entre-temps, il y a plus de 10 ans qui ont passé. Hein. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, jusqu'alors, je ne m'étais absolument pas intéressé aux ovnis sous l'angle d'une démarche anthropologique quelconque ou d'un plan de professionnel, universitaire, etc. Je m'étais juste intéressé à ces questions parce que j'étais fasciné, tout simplement. Et puis, il y a un ami, j'avais à peu près atteint les 40 ans, il y a un ami qui m'a fait comprendre qu'avec les textes que j'avais écrits et ce que je savais faire, je pouvais postuler et essayer d'espérer une carrière universitaire. Alors, très rapidement, mon premier souci fondamental a été d'échapper au lycée et de produire des textes pour pouvoir essayer de postuler à l'université. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, le texte de Paul Venn est un des premiers que j'ai écrit. C'est toute une série que j'ai réédité récemment dans un livre qui s'appelle « La postérité du sabbat » avec un point d'interrogation. Et ce sont les textes que j'ai écrits pour des revues d'anthropologie entre en gros 86 et 95. Vous voyez ? Et donc, le texte de Paul Venn était le premier de ces textes. Et donc, c'était une réponse à un livre de Paul Venn que j'avais beaucoup admiré mais qui m'avait aussi beaucoup agacé qui s'appelait « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Donc il affirmait que c'était des billevesées, il a un style très désinvolte, très percutant, il n'écrit pas comme la plupart des historiens, vous voyez ce que je veux dire. Et donc Paul Venn disait que les Grecs, ils font semblant de croire à leur mythe, mais qu'en fait, jamais ils n'ont cru à leur dieu. Tout ça, c'est ce que nous a mis dans la tête une anthropologie réactionnaire, façon Mircea Eliade, je simplifie. C'était la thèse de Veynes. Et moi, j'ai écrit un texte assez virulent que j'ai appelé les Occidentaux du XXe siècle ont-ils cru à leur mythe. Donc, en fait, j'ai démontré que, en plein XXe siècle, dans le pays le plus avancé de la planète, sur le plan technologique, eh bien, il se développe une rumeur visionnaire qui est plus qu'une rumeur, un phénomène absolument colossal, c'est les enlèvements d'OVNI qui étaient en train de prendre aux États-Unis une ampleur considérable à l'époque. Mais il y en avait aussi au Brésil, il y en avait un peu partout sur la Terre, en fait. Voilà. Donc, je démontre ça, et bon, je me suis un peu ironisé parfois sur les thèses de... Mais en fait, je l'admire en même temps. Bon. C'est paru dans une revue d'anthropologie qui avait été fondée par Edgar Morin, qui s'appelle...
Communication.
Commentaire, je crois. Non, pas commentaire.
Communication.
Communication, voilà. Et donc, j'avais tout imaginé, sauf que ça tomberait un jour sous les yeux de Paul Veynes. Et un jour, au lycée, quelques mois plus tard, je vois une lettre à l'entête du Collège de France dans mon casier au lycée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'un seul coup, je comprends que c'était Paul Veynes, alors j'ai failli tomber dans les pommes, en fait. J'ai passé une journée avant d'oser l'ouvrir. J'ai ouvert la lettre et il me dit finalement, ben, tout compte fait, vous avez raison. J'avoue que je l'avais un peu asticoté pour son côté voltairien. Alors il me dit, oui, bien sûr, j'ai ce côté, mais j'avoue que je suis en train de m'en détacher sous l'influence d'un ami très cher qui est le grand poète, comment s'appelait-il, le poète de, qui habitait dans le Midi, là, qui était le poète officiel sous Mitterrand. Vous voyez qui je veux dire ?
Du tout.
Bon, le plus célèbre poète français de l'époque.
D'accord.
J'ai un trou de mémoire, bon. Et donc, j'ai démontré ça et donc Veynes a accepté l'argument, il m'a dit oui c'est vrai, ce poète m'a, qui est un type que j'admire énormément, m'a habitué à des considérations de ce type. Il était persuadé de l'existence d'une physiologie subtile, etc., etc. Et donc, à partir de ça, ce moment-là, j'ai compris que j'étais pas vraiment dans la bonne voie. Et donc, il m'a avoué qu'il cherchait à l'époque un autre logiciel pour penser ces phénomènes que celui qu'il avait utilisé jusqu'alors. Voilà. Et il terminait sa lettre en me disant qu'il m'autorisait à publier cette lettre. Si ça pouvait me rendre service. Et donc, je ne l'ai pas fait sur le coup, c'est beaucoup plus tard que l'idée m'est venue. Et en fait, il y a deux ans maintenant, j'ai publié un livre donc, qui s'appelle « La postérité du sabbat », qui est une collection de tous ces articles anthropologiques que j'ai écrits dans les années... 95 à peu près. Et donc, la lettre de Paul Veynes, je n'ai jamais pu la publier parce que je l'ai égarée. Je l'ai prêtée à un ami qui l'a perdue, en fait. Et donc, j'ai été obligé de raconter le contenu de la lettre, ne pouvant pas l'attester de ses dires. Mais j'ai découvert depuis... qu'un anthropologue américain avait contacté Paul Veynes pour faire un livre sur sa pensée, et notamment, il voulait faire le point sur ce qu'il avait écrit à propos des Grecs. Et donc, particulièrement ce livre que j'avais critiqué. Et donc, en fait, j'ai appris trop tard que... il avait appelé Veynes et que Veynes lui avait dit que sur ces questions, il voyait Bertrand, mais bon, il sera, en fait, si vous voulez, il se rendait à mon jugement, ce qui est assez étonnant. Donc il avait abandonné l'hypothèse que les formes d'expérience extrême qui se manifestent dans les ovnis n'étaient que des illusions. Et il admettait, en quelque sorte, qu'il y avait dans l'imaginaire humain des dimensions qu'il n'avait pas explorées.
Parce que ça, c'est quelque chose de très, très important, justement, cette thèse-là. Dans ce dialogue que vous avez eu à distance avec Paul Venn, c'est quelque chose de très, très important. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe et vous, les Occidentaux, ont-ils cru à leur mythe? Ça change radicalement la manière d'aborder des phénomènes, notamment des phénomènes parapsychiques qui arrivent à des Occidentaux de conception moderne.
D'ailleurs, je précise, oui, tout à fait, je précise dans l'article, la préface que j'ai faite à laquelle vous faites illusion, là, à tous ces articles que j'ai publiés récemment, je précise que Paul Venn a écrit ensuite un livre sur la conversion de l'empereur romain, la Constantin.
Tout à fait.
Qui reprend certaines de mes idées, je dois dire. Ça me paraît tout à fait évident.
Oui, c'est un livre important de Paul Venn aussi. Je vais ouais. Pas retrouver le titre, mais c'est un livre important justement là-dessus, sur cette question de Constantin et son basculement, la manière dont il a complètement modifié après l'Empire romain avec lequel le catholicisme.
Voilà, sa conversion a modifié le monde, en fait.
Exactement. Le poète que vous cherchez, c'était René Char.
René Char, voilà, exactement, ouais. René Char. Donc René Char était convaincu de l'existence d'une physiologie subtile. Et donc, étant donné l'admiration que Venn avait pour lui, il ne pouvait pas le prendre pour un fou, vous voyez.
Alors, je voudrais en venir maintenant à la manière dont les écrivains de science-fiction ont reçu votre livre, Science-fiction et soucoupes volantes, puisque votre livre a une influence notamment sur Michel Jury, qui est un de nos grands écrivains de science-fiction des années 60, 70, 80, puisqu'il a écrit, après avoir lu votre livre, Les yeux géants, qui est un de ses très grands, très très grands romans, qui était paru en 1980. Pouvez-vous nous parler de cette relation que vous avez eu avec Michel Jury?
En fait, les Michel Jury, je l'avais rencontré à un colloque avant d'écrire mon livre, déjà. J'avais admiré cet homme qui était d'une gentillesse, qui était prêt à discuter des heures avec des jeunes inconnus pour peu qu'ils se passionnent pour la science-fiction, vous voyez, il m'avait incité à lui envoyer des textes si j'en avais, enfin, c'était, alors qu'il était déjà une gloire de l'ASF à ce moment-là, vous voyez. Et donc, Michel Jury, je lui ai évidemment fait envoyer mon livre quand il est sorti, et ça l'a emballé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un phénomène plus général. Il y a eu un succès incroyable de ce bouquin dans le milieu de la science-fiction. Ouais. Parce que, ça mêlait, hein, si vous voulez, les gens de la science-fiction avaient une méfiance marquée à l'égard des ovnis, ils considéraient ça avec un certain dédain. Et là, je l'ai, en quelque sorte, j'ai racheté la question à leurs yeux, on va dire ça comme ça. Et donc, ça dépassait le cas de Jury. C'était ce livre, c'est assez paradoxal. Plus j'écris des livres, moins ils se vendent et moins je suis connu. Mais le premier, le premier avait eu un grand succès. C'est très bizarre tout ça. Et donc, Michel Jury écrit un livre qui s'appelle Les yeux géants. Alors, en fait, ce qu'il décrit, c'est une situation quand on... je suis un personnage du roman, hein, j'interviens très peu, mais enfin, bon, il me l'a dédicacé d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est une sorte d'anticipation, évidemment romancée, de ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'infosphère à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on appellerait ça le... Comment on appelle ça? Le net, pas le truc... je trouve plus le terme qu'on emploie pour désigner le cloud, voilà.
Le cloud.
Donc l'infosphère, n'oubliez pas que c'est un livre qui est écrit en 80. Hein. L'infosphère est en train de pénétrer complètement l'humanité, de la dominer, de la modifier, et il commence à se produire des phénomènes de plus en plus étranges, des choses qui apparaissent dans le ciel, qui semblent moduler la concrétisation de nos fantasmes. En fait, l'humanité est en train de perdre la boule. Et le livre se termine par cette dernière phrase. La fin de ce livre ne peut pas être écrite avec le langage humain. C'est une sorte d'apocalypse qu'il décrit, si vous voulez.